quelques questions théologiques. Les piliers de la foi comportent des affirmations théologiques de base. Ces affirmations sont certainement suffisantes pour la plupart des musulmans. Cependant, d'autres questions théologiques ont surgi dans l'islam. L'auteur en mentionne quelques-unes dans cette partie. Certains de ces débats sont réglés depuis longtemps. D'autres sont encore d'actualité. Certaines questions pourront vous paraître d'une actualité brûlante et pertinente. D'autres pourront vous paraître surprenantes ou désuètes, soit parce que vous n'en voyez pas l'intérêt, soit parce que vous ne voyez pas où est le problème. Cependant, soyez bien certain qu'à une certaine époque, ces questions ont revêtu une importance capitale en théologie musulmane. La théologie est importante en islam, mais sans doute pas autant que pour le christianisme, et pas autant que la philosophie pour certaines formes d'hindouisme. L'islam est plus près du judaïsme que du christianisme parce qu'il met davantage l'accent sur d'autres aspects de la religion, comme la loi. Dans le passé, certains protestants ont considéré que les catholiques n'étaient pas de vrais chrétiens, et quand le protestantisme a surgi au XVIe siècle, les catholiques ont jugé que les protestants n'étaient pas de vrais chrétiens. Beaucoup de juifs orthodoxes ne considèrent pas le judaïsme réformateur comme une forme authentique de judaïsme et ne reconnaissent pas comme valides les conversions au judaïsme accordées par les rabbins réformés. Même dans la conversation ordinaire, une personne peut se référer à une autre, habituellement pas en sa présence, comme n'étant pas un chrétien ou un juif véritable, voulant dire par là qu'elle met en doute l'authenticité de la foi de telle ou telle personne. L'islam, dès les premiers temps, s'est posé la question de savoir ce qu'était un vrai musulman. À retenir. Un groupe qui est apparu au 7e siècle, celui des Kharijites, écoutez le chapitre 4, a préconisé une austérité rigide visant à exclure de la communauté musulmane celui qui ne pratiquerait pas de façon stricte, par exemple celui qui se montrerait négligent dans l'observance des prières quotidiennes. Au cours de son histoire, l'islam s'est montré très ouvert aux conversions, le seul critère étant de se reconnaître soi-même musulman. Même aujourd'hui, le souci de l'unité de la communauté musulmane, Umma, prévaut généralement sur la volonté d'imposer une orthodoxie des croyances et des pratiques. En dernier lieu, la décision de reconnaître quelqu'un comme étant un vrai musulman est laissée à l'appréciation de Dieu lui-même à l'heure du jugement dernier. En outre, même celui qui serait condamné à l'enfer en raison de ses nombreux péchés peut encore gagner son entrée au paradis pour peu qu'il professe avec sincérité la shahada, le témoignage de foi en Dieu et en Mohammed comme étant le prophète de Dieu. Des exceptions existent à cette attitude générale de tolérance et d'acceptation de tous ceux qui se disent musulmans. Quelques groupes islamistes extrémistes prennent une position semblable à celle des Kharijites de l'ancien temps. Les membres d'un groupe islamiste extrémiste ont assassiné le président de l'Égypte, Anwar el-Sadat, en 1981, l'ayant déclaré indigne d'être musulman, alors qu'il était connu pour sa piété et son respect scrupuleux de la loi et des rites de l'islam. Les talibans, qui, lorsqu'ils étaient au pouvoir en Afghanistan, ont imposé leur interprétation de l'islam, ont récemment publié un décret, fatwa, disant que Hamid Karzai, l'actuel président de l'Afghanistan, n'était pas un vrai musulman et par conséquent méritait d'être assassiné. La meilleure façon de dénier à un musulman le droit de l'être consiste à le traiter d'incroyant, kafir. Cela rappelle la pratique de l'excommunication qui existe selon des modalités particulières dans le christianisme. Le débat sur le lien entre la foi et les œuvres, c'est-à-dire les actes, a fait l'objet d'âpres discussions. Les textes islamiques parlent de l'affirmation par la langue, le cœur, le siège de la compréhension, et les membres, c'est-à-dire les œuvres. Dans la pratique, Chacun de ces trois types d'affirmations est exigé d'un musulman. Mais des désaccords existent sur le fait de savoir si la langue et le cœur sont suffisants ou si, sans les actes, une personne peut être considérée comme étant vraiment musulmane. Une question liée à la précédente porte sur le fait de savoir si la loi est un absolu. Certains disent qu'on a la foi ou qu'on ne l'a pas. Il n'y a pas d'intermédiaire. La position de la majorité des musulmans est de rejeter cette façon de voir et de dire que la foi d'un musulman peut augmenter et s'approfondir comme elle peut aussi bien diminuer et s'étioler. Dans la section de ce chapitre intitulée « Exposé du contenu de la foi », l'auteur a déjà fait allusion à ce débat qui était très important au cours des discussions théologiques sur l'islam dans les premiers temps. Quand on parle de Dieu en employant des mots qui se réfèrent aux êtres humains, faut-il prendre ces énoncés à la lettre? Ce que l'on qualifie d'anthropomorphisme. C'est ce que pense la majorité des musulmans, mais ils ajoutent que ce vocabulaire ne signifie pas nécessairement la même chose quand il est utilisé pour parler de Dieu. Le Coran créé ou éternel? Il s'agit peut-être là de la question théologique la plus âprement discutée au IXe siècle de l'islam. Le Coran, livre descendu du ciel, a-t-il existé de toute éternité ou bien a-t-il été créé un jour par Dieu? Ce débat n'est pas sans rappeler celui sur le Christ, dont on se demandait dans les premiers temps du christianisme s'il avait toujours existé ou s'il était le premier de toutes les créatures que Dieu avait faites. Le groupe des Mu'tazilites a plaidé en faveur d'un Coran créé. Pourquoi cette question était-elle si importante pour l'islam? Attention! Selon les Mu'tazilites, dire que le Coran est éternel, un créé qui a toujours existé, contredit le concept islamique de base de l'unicité de Dieu qui inclut la croyance que seul Dieu est éternel. Les dirigeants musulmans de l'époque, les califes, ont essayé d'imposer par la force la conception mu'tazilite du Coran créé, mais n'y sont pas parvenus. La plupart des musulmans acceptent depuis lors que le Coran a toujours existé, même si la façon d'expliquer cet état de fait soit bien compliquée et difficile à comprendre. Si l'idée d'un Coran créé a finalement été rejetée, quelques théologiens ont tenu à faire une distinction entre le Coran éternel et le Coran tel qu'il se manifeste en un temps et en un lieu donné. Est-ce que Dieu dit qu'il ne faut pas tuer parce que le crime est intrinsèquement mauvais? Ou est-ce que cela est mauvais parce que Dieu l'a décrété ainsi? Si Dieu demandait que l'on tue, le crime serait-il bon? Les réponses à cette question varient. Certains disent que même indépendamment de la révélation et de l'Écriture sainte, un niveau objectif de bien et de mal existe, et que l'on peut, au moins partiellement, en avoir conscience par la raison et l'intuition. D'autres adoptent la position opposée et concluent que les actions sont bonnes ou mauvaises seulement parce que Dieu en a décidé ainsi. C'est plutôt cette dernière attitude qui a prévalu.